On va commencer Bezrat Hashem, notre premier cours de résumé sur les 53 chapitres du Tanya. Je pense qu'on le fera, si Dieu veut, en deux cours. Dans le premier chapitre du Tanya et le deuxième chapitre, donc là vous avez la page 1 qu'on a ici. En fait, l'idée maîtresse du chapitre 1 et 2, c'était la notion que nous n'avons pas qu'une âme et que nous avons deux âmes.
Non, trois.
Attendez, on va y arriver. Pour l'instant, on a deux âmes. D'accord ? Maintenant, pourquoi on arrive à deux âmes ? Les questions. Ça, c'est les questions, voilà. 1, 2, je veux dire 1, A. Quelles sont les questions qu'on s'est posées ? Les questions existentielles. D'abord, la première question, c'est comment dois-je me voir ? Des fois, on a tous cette question. Des fois, j'ai l'impression que je suis un type bien. Des fois, j'ai l'impression que je suis un type pas bien. Comment dois-je me voir ? C'est un vrai problème, ça. On sait plus où se mettre. Il y a des gens qui préfèrent ne pas penser. Ils préfèrent être occupés. Mais comment dois-je me voir ? Il y a un problème d'autosatisfaction. Vous savez ce que l'autosatisfaction ? C'est quand tu dis, bon, ben tout va bien, alors que tout va mal. Il y a des gens pour qui tout va mal, et tu les vois avec un grand sourire. Tu dis, pourquoi tu souris ? Il dit, parce que pour moi, tout va bien. D'un autre côté, des gens, ils sont toujours mchénef. Il dit, pourquoi t'es mchénef ? Pourquoi tu fais la tête ? Il dit, parce que tout va mal, alors que tout va bien. C'est une question de jugement. Donc, comment dois-je me voir ? Est-ce que je suis un type bien, ou est-ce que je ne suis pas un type bien ? Pour répondre à cette question, on doit avoir une définition absolue du bien et du mal. Qu'est-ce que le bien ? Qu'est-ce que le mal ? C'est quoi le bien ? C'est quoi le mal ? Qu'est-ce qu'un bénoni ? C'est quoi un bénoni ? Alors, c'est ce que j'explique. Et une autre question qu'on a touchée aussi, c'est la question du déterminisme. Je vais résumer toutes les questions. Vous savez ce que c'est le déterminisme ? Les Arabes, ils appellent ça le mektoub. Mektoub. Ça veut dire que destiné, ça veut dire qu'on te dira, par exemple, que quelqu'un qui est né dans une famille comme ça, dans une cité comme ça, dans un environnement comme ça, il finira comme ça. Et donc la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que pense la Torah de tout ça ? Qu'est-ce que la Torah pense de tout ça ? Est-ce que la Torah pense que ça peut changer ? Donc pour résumer, en vérité, toutes ces questions, ça tourne autour d'une seule question. C'est pour ça que je ne le lis pas dans les mots, parce que ça tourne autour d'une seule question. C'est pas des mots sans, hein, c'est mes mots. Ça tourne autour d'une seule question. C'est finalement, le but du Tanya, c'est d'ouvrir le capot. D'ouvrir le capot et de voir qu'est-ce que j'ai dans le ventre.
Bonsoir.
Hein? Bonsoir. Voilà. Le but du Tanya, c'est d'ouvrir le capot et de voir. Tout le but du Tanya, c'est ça, juste de me connaître. Ah oui, parce que qui suis-je ? C'est la grande question.
Tu ouvres le capot, il faut que tu aies un bon mécanicien.
Est-ce que je suis un type bien ? Est-ce que je suis un type pas bien ? Est-ce que je suis un type sadique ? Est-ce que je suis un bénonier ? Est-ce que je suis un type moyen ? Je sens que mon comportement varie, alors j'arrive pas à me jauger. C'est difficile. C'est compliqué. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Imaginez, c'est comme si vous dites que vous êtes dans la bourse et que vous avez l'impression que vous gagnez, que vous avez l'impression que vous perdez, et ça monte, ça descend. Tu dis, mais je ne comprends pas. L'affaire, elle gagne ou elle perd ? Il ne sait plus. Il ne sait plus où il va. Il ne sait plus s'il accélère, s'il freine, s'il avance, s'il recule. C'est notre vie, ça. Dans notre vie, quand tu arrives à la fin de la journée, tu dis, bon, Mandy, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu as fait cette semaine ? Voilà, ce soir, c'est Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, c'est un moment de bilan. Tu dis, bon, il y a un mois qui s'est passé. On a beaucoup à dire sur le mois qui s'est passé. Etc. Bon, Mandy, il y a un mois qui est passé. Qu'est-ce qui t'a apporté ce mois ? Et là, tu te remets en question. Alors, d'un autre côté, tu te dis, mais attends, je ne peux pas tout négliger quand même. On a passé des grands moments. On a passé Rosh Hashanah, Kippour, je me rappelle que je vivais des grands moments, Simchat Torah, Sukkot, etc. On a vécu des grands moments. Mais d'un autre côté, tu te dis, je ne sais pas si ça m'a vraiment touché profondément. Les événements sont passés. J'étais présent. J'étais là. J'ai participé aux événements. Mais est-ce que ça m'a vraiment touché ? C'est des questions qu'on se pose, qu'on doit se poser, qu'on peut se poser, qu'on doit se poser. Donc, qui suis-je ? Alors, c'est là qu'arrive 1B et 2. C'est la réponse de l'Admor HaZaken, qui dit, pour moi, c'est le chidouche principal du Tanya, c'est pour ça qu'il le met au début, qui nous explique que contrairement à l'erreur de penser qu'au fond de moi, j'ai un bon penchant et un mauvais penchant, ce ne sont pas des penchants. Ce sont carrément des âmes. J'ai une âme animale et une âme divine. Pourquoi c'est très important à préciser ça ? Après, vous pourrez réviser chez vous, hein, mais je vous explique. Je suis à 1B et 2. Vous me regardez ou vous regardez comme vous voulez. Pourquoi c'est important de préciser qu'il ne s'agit pas de deux penchants, mais il s'agit de deux âmes ? S'il s'agit de deux penchants, c'est quoi un penchant ? Un penchant, ça veut dire c'est comme ça, par exemple. Tu vois, là, je tourne la bouteille. Eh ben là, la vodka, elle tourne à droite. Maintenant, je tourne comme ça, la vodka, elle tourne à gauche. Maintenant, la vodka, elle est ni de gauche ni de droite. Elle est comme ça, c'est la même bouteille. Donc, beaucoup de gens qui pensent, disent, moi, je suis quoi ? Je suis une entité. Des fois, je vire à droite, des fois, je vire à gauche, comme le volant d'une voiture, d'accord ? Bon, C'est une voiture qui, des fois, elle tourne à droite, des fois, elle tourne à gauche. Sauf que ça n'explique pas les paradoxes qu'il y a en moi. Parce que autant des fois, tu vas te lever un matin, tu fais une fila, tu sens que t'es béton armé. Mmh. T'es à fond dedans. Et cinq minutes plus tard, en plein milieu de la midette, t'as une pensée, une tordue qui te tombe dans la tête. Tu dis, mais d'où elle est sortie, celle-là? D'où elle vient? D'où elle est sortie, celle-là?
Même des rêves.
D'accord, même des rêves. Tu peux rêver d'un tzadik, tu peux rêver d'autre chose. Tu dis, mais d'où elle sort, celle-là? D'où elle sort, cette pensée?
Cette imagination.
Alors voilà. Donc ça veut dire, dire simplement que c'est une histoire de penchant, ça ne suffit pas. Parce que un penchant, ça n'explique pas. Un penchant, un serpent, ça vire à droite, ça vire à gauche, c'est pas suffisant. Par contre, si on, là, Morazaka te dit non, c'est pas deux penchants que tu as. C'est pas une âme avec deux penchants que tu as. Ce sont deux penchants.
Deux âmes.
Deux moteurs distincts.
Deux natures.
Voilà, deux natures. On pourrait même parler, j'ai pas envie de dire ça, mais c'est plus qu'hybride. Aujourd'hui, il parle de bipolarité. C'est une forme de schizophrénie. Ça, c'est quoi un schizophrène? C'est une personne qui a deux personnalités en même temps. Mais quelque part, spirituellement, nous sommes schizophrènes. Je ne veux pas vous choquer, c'est ce qu'on a expliqué. Bon, ça fait longtemps qu'on a étudié ça. Hein. Mais spirituellement, nous sommes schizophrènes. Oui, spirituellement, on est un peu comme ça. C'est-à-dire, d'un côté, tantôt on est matériel, tantôt on est spirituel. Alors, il a expliqué maintenant qu'il y a l'âme animale et il y a l'âme divine. L'âme animale, c'est l'âme primaire. C'est pas forcément. C'est vrai que dans l'animal, il y a mal, mais c'est pas forcément une âme mauvaise. C'est l'âme qui fait tout ce que je fais. Qu'est-ce que je fais? Je mange, je dors, je bois, même je réfléchis. Un animal, il mange ou il mange pas? Il mange, il dort, il boit, même il réfléchit. D'une certaine façon, il parle, bien sûr qu'il parle. Il parle pas comme moi, mais il parle. Il communique. L'animal est un communicant, il communique avec l'homme. Et il communique entre eux aussi. Donc nous avons l'âme animale. C'est quoi l'âme animale? L'âme animale, c'est la source de tous nos traits de caractère. Maintenant, un point très important qui va nous accompagner aussi dans Tania, ça c'est aussi une autre idée maîtresse du Tania, c'est que, en fait, l'homme ne naît pas mauvais. Il naît avec des outils qui sont peut-être mal utilisés, mais qui ne sont pas forcément mauvais. Alors, je vais donner un exemple concret. Ça, c'est un point très important à comprendre, ce que j'entends dire. De dire d'abord qu'il y a deux âmes, et à part ça, d'expliquer que dans ces deux âmes, même l'âme qui t'a l'air négative, en vérité, elle n'est pas si négative que ça. Exemple. Imaginez par exemple quelqu'un, on a un exemple dans la Gemara, de quelqu'un que les astrologues ont vu quand il était petit. Je ne rentre pas dans la question comment on a fait appel aux astrologues. Ils n'ont pas fait appel aux astrologues, mais c'est les astrologues qui ont dit à sa mère. Ils l'ont dit, votre fils sera sanguin.
Ouais.
Non, pas nerveux. Sanguin. Sanguin, c'est-à-dire qu'il aime le sang.
Un tueur, quoi.
D'accord. Ouais.
Sauf que...
d'accord. Et quand elle a entendu sa mère, quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, mon fils, il sera chochette. Il sera moelle.
Attends.
Alors, comment tu expliques ça?
Médecin.
Chirurgien, exactement. Ouais. Chirurgien, c'est un charcuteur.
Ouais.
Bah oui.
C'est un gros charcuteur.
Qu'est-ce qu'il a dans les mains?
Il a le couteau.
Il a le couteau, il a du sang, il charcute. Seulement voilà.
Le boucher aussi.
Alors, moi par exemple, je vous dis honnêtement, je fais une confidence. Moi par exemple, dès que je vois la charcuterie, que je vois le sang comme ça, ça me repulse parce que je sais pas, par rapport à ma sensibilité.
T'as pas l'habitude.
C'est pas seulement une question d'habitude, c'est une question de sensibilité.
Mon âme n'a pas l'habitude.
D'accord, parce que mon âme n'a pas l'habitude, si je la sers, je sais pas, moi ça me.
Pas sanguinaire. Quoi. Mais dans
l'autre.
Pas attiré par ça.
Non, ça, je suis pas du tout sanguinaire. Non, mais c'est même pas sanguinaire, c'est que c'est nature. Nature. C'est-à-dire que même par exemple, vous savez, aujourd'hui, ils vous font des films ou des jeux vidéo avec des effets spéciaux. Ouais. Si tu tues quelqu'un maintenant, tu vois, dans le jeu vidéo, tu vois, ça gicle. Hein? J'ai vu les jeunes stars jouer à ça. C'est un jeu. Ça m'a dégoûté. Parce que mon âme n'aime pas ces choses-là. Vous avez des gens, ça ne dérange pas. C'est la nature que je m'a crié. Alors, est-ce que ça veut dire celui-là, il est sanguinaire? Non, ça ne veut pas dire ça. C'est-à-dire, celui-là, peut-être, il pourrait devenir chouchette, il pourrait devenir moelle. Ou bien, par exemple, t'as des gens qui ont un tempérament chaud. C'est bon et c'est pas bon. D'un côté, c'est bon parce qu'avec quelqu'un qui a un tempérament chaud, il peut faire beaucoup de mitzvot, il peut communiquer, il peut rapprocher des gens, mais d'un autre côté, ça peut être un gros nerveux qui peut tout casser. Ouais. Alors, comment Dieu t'a créé? T'as créé bien ou mal? Ça, c'est l'aspect animal qui est en moi. L'aspect animal qui est en moi, c'est un aspect, c'est comme un marteau, comme tout. Comme la bouteille que j'ai devant moi. C'est bien ou c'est pas bien ça?
Ça dépend.
Ça dépend.
D'ailleurs.
Hein.
Non. Je pose une question, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien?
Non, pas bien.
Pourquoi tu dis que pourquoi c'est pas bien?
C'est bien en fonction de...
Pourquoi Dieu a créé la vodka?
Pourquoi Dieu a créé?
Soyez vrai, il faut refuser mais pas abuser, frérot.
Tu comprends? Tout? Dans tout, c'est comme ça. Tu sais, les bambas que tu manges, là.
Un kiff.
C'est pas de la nourriture, ça.
Pourquoi tu sois pas en manque de vodka?
Pourquoi t'en manges?
Tu réponds.
Ah? Le choix, c'est la caisse de mon toit.
Donc tu réponds pas.
Hein, c'est sucre. À part peut-être les cornichons. Vas-y, cornichons et les olives. Vas-y, attaque. Et encore.
D'accord.
Elle est bonne, là.
Sinon,
il sera en danger de manquer de vodka.
Donc, en fait, je disais, j'étais toujours en bas de la colonne 1. On voulait expliquer que, d'abord, c'est pas qu'une âme que nous avons, nous, c'est deux âmes. Et deuxièmement, ces deux âmes, c'est quoi ces deux âmes? T'as une première âme qui s'appelle l'âme animale, une deuxième qui s'appelle l'âme divine. L'âme animale n'est pas forcément mauvaise. C'est comme un animal. Je veux dire que c'est une nature que tu as, que tu peux utiliser en bien ou que tu peux utiliser en mal. Maintenant, la deuxième âme que nous avons, c'est l'âme divine. Pourquoi je l'appelle deuxième? Parce que cette âme, elle se met en éveil qu'à la bar mitzvah.
Avant,
elle n'est pas en éveil. C'est pour ça qu'on peut pas attendre un enfant, j'ouvre une parenthèse. On peut pas attendre d'un enfant des choses qu'on attend d'un adulte. Un enfant, tu peux essayer de l'éduquer, tu peux essayer de l'entraîner, tu peux essayer de l'éduquer, de le mettre dans une piste. Mais tu peux pas attendre d'un enfant qu'il ait la même ferveur qu'un adulte. Parce que l'enfant, son âme divine n'est pas réveillée. Il a que son âme animale, donc il veut essayer de faire plaisir à ses parents. Il peut avoir peur de ses parents, il peut avoir peur de ses professeurs, c'est possible. Il y a plusieurs types d'éducation.
Elle est présente dans mon corps.
Mais, hein, elle est présente, mais elle est pas en éveil. Par contre, qu'est-ce que c'est cette âme divine? Alors là, je lis, l'âme divine, c'est une partie, l'âme divine, de partie de Dieu. D'accord? On a expliqué aussi dans le chapitre 2, son origine, ses variétés. On a expliqué que l'origine de l'âme divine, c'est Dieu, mais il y a plusieurs variétés. Il y a des millions de types de neshamot. On avait expliqué aussi le rôle du tzaddik. C'est quoi le rôle du tzaddik? Le tzaddik, c'est une neshama qui est comme une tête. Pour rappeler l'idée, on avait expliqué ça, on a expliqué plusieurs fois. On a expliqué que si vous voulez, le âme Israël est comparé à un grand corps. Un grand corps plus de Neshamot. Il y a des Neshamot qui sont aux pieds, des Neshamot qui sont à la main, etc. Il y a des Neshamot qui sont à la tête. C'est quoi les initiales de Rabbi? Rabbi, tout le Rabbi. Rosh Bene Israël. La tête des Bene Israël. Tous les Rabbis. Rosh Bene Israël. D'accord? Donc on a expliqué justement l'importance de l'âme divine et surtout l'âme divine d'un tzaddik. Alors enfin, on avait expliqué aussi l'importance, le rôle des parents dans la conception. Les kavanot que les parents ont pendant la conception du bébé, c'est un rôle très important pour définir quel sera l'enfant, quelle âme divine il aura. Est-ce qu'il aura une âme divine qui sera plus sensible ou moins sensible? On n'est pas en train de vous raconter ça pour vous poser la question à quoi vos parents ont pensé quand ils vous ont conçu. On est là pour vous penser, vous. De toute façon, on conçoit toujours, même si on est ménopausé, etc. De toute façon, on ne s'arrête pas de concevoir, que ce soit physiquement ou pas physiquement. Ben, la question qu'on doit se poser, selon les kavanot qu'on aura à ce moment-là, eh ben, on va concevoir la pureté de l'enfant, l'âme divine. D'accord? Donc ça, c'était ce qu'on a expliqué dans le chapitre 1 et 2. On a rapidement, ça je ne veux pas trop m'arrêter dessus, dans la colonne 3 à 5. On s'est arrêté sur l'âme divine plus profondément. On a expliqué que l'âme divine était décomposée en deux parties. Vous vous rappelez? Il y avait... j'attends pas de vous de vous rappeler, hein, c'est quand même des sujets qu'on a... Moi, je l'ai passé des dizaines de fois, donc je me rappelle par cœur, c'est normal. Mais on avait expliqué que l'âme divine était composée de deux parties. Il y avait la partie intellectuelle et la partie émotionnelle. La partie intellectuelle est composée de trois parties. Chochma, Bina, Da'at. Chochma, Bina, Da'at. Alors c'est quoi la traduction? Rochma, c'est la conception. Bina, c'est la perception, quand je vois l'idée. Et Da'at, c'est l'attachement. Après, nous avons les expressions. Donc là, comme vous avez la liste, comme ça c'est bien, vous pourrez viser aussi. Donc nous avons sept expressions émotionnelles. Je suis au numéro 3. Sept expressions émotionnelles. Bonté, la bonté, Chesed, la sévérité, Gvura, et leur harmonie, Tiferet. La triomphe, la majesté et la transmission. La royauté et l'autorité. Là, vous avez tous les traits de caractère qui sont écrits ici. Vous avez tous les traits de caractère que vous avez. Alors après, voilà. Par exemple, il y en a qui vont exceller dans la royauté. Eux, leur truc, c'est la royauté.
C'est quoi la royauté?
La royauté, c'est vouloir être patron. Vouloir gérer. Ah. Bien sûr. D'accord ? L'autorité. T'as des gens, t'as des gens que leur nature, c'est la transmission. Toute leur nature, depuis qu'ils sont petits, ils veulent toujours donner, transmettre. T'as des gens, leur nature, c'est le triomphe. C'est-à-dire qu'ils veulent toujours se battre, gagner. Gagner des guerres. Ça peut être gagner des challenges. T'as des gens, je prends au hasard, hein, t'as des gens qui sont très sévères. Sévères, avec eux, stricts. Avec eux-mêmes, avec les autres, stricts. T'as des gens qui sont bons. C'est des gens bons, d'accord. Et beurre. Alors, et t'as des gens, t'as des gens qui sont harmonieux, c'est-à-dire qu'ils ont un peu des deux, ils ont un peu de bonté, un peu de rigueur. En fait, ce qu'on a expliqué, c'est que l'âme divine et l'âme animale, mais l'âme animale, je parlerai de ça après. L'âme divine et l'âme animale sont composées, sont toutes deux composées de cette structure de trois facultés intellectuelles, ça veut dire la conception. Après, je m'attache à la chose. Après, je développe la chose. Et après, je m'attache à la chose. Et après, et les sept facultés émotionnelles, l'âme divine et l'âme animale ont les deux ces facultés. Je vais expliquer concrètement ce que je veux dire. Vous allez voir, c'est très simple. Je vais vous donner un exemple concret. On va prendre, par exemple, conception. La conception. OK ? On va expliquer ce que c'est la conception pour l'âme divine. La conception pour l'âme divine, c'est lorsque, par exemple, je me lève un matin et j'ai une idée d'un projet qui va révolutionner la communauté, qui va changer le cours du monde. D'accord ? C'est possible, peut-être. D'accord ? J'ai une idée. C'est pas une idée pour gagner des sous.
On peut toujours rêver.
On peut toujours rêver, bien sûr. L'espoir fait vivre.
Mais alors, ça peut arriver.
Ça peut arriver. Donc, imaginez quelqu'un, il se lève un matin et dit « J'ai une superbe idée. »
Eureka.
Donc, il y a une conception. D'accord ? Conception, après je développe l'idée, après je m'attache avec l'idée, après etc. J'avance l'idée. Ça, c'est première hypothèse. Deuxième hypothèse, je peux me réveiller le matin, et au lieu d'avoir une conception divine, je peux avoir une conception malsaine, animale. Je veux dire, ah, attends, j'ai une idée. Comment piquer de l'argent de mon concurrent ? Et ça peut être une excellente idée. J'ai trouvé une faille. Une bonne faille. Une faille imperceptible. Donc, je vais utiliser ma capacité de conception. Je vais concevoir le projet. Après, je vais le développer. Après, je vais m'attacher. Et je vais mettre à fond dedans. Donc là, tu as deux prototypes. Tu as deux personnes. Pardon. Tu as une personne qui est en train d'utiliser sa tête pour construire. Une autre personne qui est en train d'utiliser sa tête pour
détruire.
Et les deux ont utilisé leur tête. Alors, la tête, elle est bonne ou elle est mauvaise?
Très bonne.
Elle est bonne.
Très bonne. Tu dis que tu l'auras donné.
Non.
La tête est ni bonne ni mauvaise. La tête, c'est un outil. Dieu t'a donné un outil de conception. Après, la question va être la suivante. Avec l'outil caché, il t'a donné de conception. Tu as donné un outil. Qu'est-ce que toi, tu as fait de cet outil? Est-ce que tu as utilisé cet outil avec l'âme divine? Ou est-ce que tu as utilisé cet outil avec l'âme animale? Quel pignon t'as, vous savez, comme dans la voiture. Quel pignon t'as? Voilà, marche arrière, marche avant. Maintenant, le moteur il tourne.
Ouais.
De toute façon, il n'y a pas un moteur pour la marche avant, un moteur pour la marche arrière. C'est le même moteur. Quel pignon t'as enclenché ?
Mais celui qui veut s'élever au niveau de la concurrence, il veut,
oui.
Il veut faire plus que son voisin.
Alors, très bien. Genre, je vous donne un très bon exemple ce que vous dites. Si vous parlez de concurrence, il y a deux types de concurrence. Il y a ce qu'on appelle une concurrence constructrice. C'est-à-dire c'est constructif, c'est du challenge. Et il y a ce qu'on appelle une concurrence déloyale. Je vais expliquer ce que je veux dire. Prenez par exemple, des fois un professeur, il a envie de créer une forme de compétition. Voilà, en français, on aime bien ce mot compétition entre les élèves. La compétition, c'est la concurrence. On parle d'une compétition dans une classe, on parle d'une compétition de sport. C'est quoi une compétition ? C'est de la concurrence. Mais en fait, on a utilisé la concurrence, l'aspect concurrence de l'être humain, oui. Dans le bon sens, pour le bien.
On stimule.
Là, on stimule. Donc là, exactement, la compétition, c'est une façon de stimuler la personne. Donc là, la compétition, c'est bien. Mais d'un autre côté, lorsqu'on est là à avoir uniquement dans sa tête la concurrence, je pense comme mon concurrent, et qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce que moi je veux faire, stam pour l'embêter, je mets, parce qu'il a fait, je fais ça, et la sortie se produit, moi je le sors à perte, je le perds, je le casse sa boutique, etc. Donc là, tu es en train d'utiliser mal la concurrence. Donc vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, la conclusion à laquelle je vais arriver déjà avec cette première page, c'est que Dieu n'a pratiquement rien créé de mauvais. Pratiquement. Il y a des choses, on verra, qu'on peut pas gérer, mais en fait, même les choses qu'on pense être mauvaises
ne sont pas
mauvaises. C'est les pulsions qu'Hachem a créées qui peuvent être mal utilisées ou bien utilisées. C'est moi qui décide. Voilà, on a parlé de compétition. Alors, vous savez, la langue française est très riche aussi. Hein. Compétition et concurrence, c'est la même chose. Mais ça ne veut pas dire la même chose. Compétition, tous les mots qu'on a ici, D'accord. Pareil, la bonté. Prenez la bonté. Allez, je veux que vous me donniez des exemples. Donnez-moi un exemple d'une personne qui est d'un type bon, dans le bon sens du terme.
Dans le mauvais sens, je vois pas.
Attendez, on va réfléchir. Dans le bon sens du terme, c'est quoi un type bon ?
Qui est des gens qui...
Hein ?
Généreux.
Quelqu'un qui est généreux, qui aide. Alors, donnez-moi un exemple d'un type bon dans le mauvais sens du terme.
C'est Abel. Abel hein était bon. Assiste.
Imaginez qu'il y a un terroriste qui débarque. Ouais. Dieu préserve. Et qu'il faut l'arrêter, il faut le mettre à mort s'il faut. Ouais. Et qu'il y a une personne qui dit, moi je suis un type bien. Je vais l'aider.
D'accord,
non, il se fout. Non, il est fou. Il dit, c'est un être humain, je vais l'aider, tu m'aider.
Mais il a raison, il est fou. Mais...
Quand, hein ?
Il est fou, le type.
Mais oui. Je comprends. Je vais l'aider, je vais le sauver, je l'amène chez moi à la maison.
Le terroriste ?
Oui ? Ouais,
bien sûr. Il est fou. Il est déterminé déjà à la base.
Non, mais je comprends.
Oui, mais enfin, ça dépend.
On peut le sauver, tu crois ?
Ça veut dire ce que...
Non, mais c'est peut-être une impulsion qu'il a eue à ce moment-là.
Non, mais c'est un exemple que je donne pour expliquer que. Pour expliquer que pas toutes les bontés sont bonnes.
Oui, bien sûr, c'est ça. Donc ah oui. Celle-là, elle n'est pas bonne.
Évidemment qu'elle n'est pas bonne.
Oui, d'accord.
Je vois un enfant jouer avec un couteau. Je vais lui enlever le couteau. Il se met à pleurer. Alors le type, il a dit, moi je suis un type gentil, moi. Moi je suis un papa cool, moi. Je laisse jouer. Vas-y, joue, c'est pas grave. Enfin, là, c'est une bonté destructive. C'est une bonté destructive. D'un autre côté, on va parler de la sévérité maintenant. Alors une sévérité positive, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui est rigoureux envers soi-même. C'est pour ça qu'en vérité, ici on a mis le mot sévérité, mais le mot sévérité n'est peut-être pas le bon mot. Parce qu'en français, on a deux mots. On a sévérité et rigueur. C'est pas la même chose. Rien de sévère. Sévère, c'est une connotation négative. Sévère. Rigoureux, c'est la même chose. Quelqu'un de rigoureux, c'est quelqu'un qui est très sévère envers soi-même. Mais c'est une connotation positive. Il est rigoureux, il fait partir le train à l'heure, il est là, c'est un Algérien, il est de la rigueur. C'est bien.
Ils vont retourner en Algérie.
Non, hein ?
Ils vont retourner chez lui.
Non, ils n'ont pas besoin de retourner en Algérie. Ils ont né l'Algérie ici.
Alors. Non, ne parle pas. On a besoin de France algérienne.
Voilà. Donc ça, c'était encore une autre idée qu'on avait expliquée dans chapitre 3. Donc pour résumer, où on en est ? Nous avons deux âmes. Donc ces deux âmes, une âme divine, une âme animale. Et ces deux âmes sont composées de 10 niveaux. 3 facultés intellectuelle, 7 facultés sentimentales. D'accord. Maintenant, on a expliqué aussi autre chose, chapitre 4. Ça, c'était beaucoup arrêté dessus aussi. De toute façon, tout ce que je dis, vous pouvez le revoir dans l'enregistrement s'il y a des idées qui. S'il y a des chapitres que vous voulez développer plus. Merci. Il y a une autre chose qu'on a expliqué, c'est la notion des moyens d'expression de l'âme. Très important à comprendre ça aussi. Chacun de nous a 3 moyens d'expression. Au-delà de mon caractère, ce que je suis, etc., j'ai 3 moyens d'expression qui sont ma pensée, ma parole, mon action. Ma chashava, dibour et maase. Pourquoi c'est important de préciser ça ? Parce que, comme on expliquera plus tard, finalement, un homme n'a de libre arbitre seulement sur ces 3 choses. Ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais. Tout le reste, j'ai pas de libre arbitre. Ça veut dire que... J'explique. Par exemple, je n'ai pas de libre arbitre sur mon caractère. Je n'ai pas de libre arbitre sur ma capacité à concevoir. Je n'ai pas de libre arbitre sur les pensées qui vont me tomber dans la tête. Par contre, j'ai un libre arbitre sur ce que je pense. C'est-à-dire que même si la pensée m'est tombée dans la tête, je peux décider activement est-ce que j'y pense ou j'y pense pas. Donc comment j'y pense pas, je penserai à autre chose. Il n'y a que 3 choses qu'on domine dans notre vie. 3 choses. Ce que je pense, je peux décider d'y penser ou de ne pas y penser. Je contrôle aussi ce que je dis. Je peux dire ou pas dire. Et ce que je fais. Mais je ne contrôle pas ce que je suis. Je peux contrôler ce que je fais, mais pas ce que je suis. D'accord ? Et ça, c'est un point important à comprendre, parce que finalement, on va t'expliquer que tu ne peux pas être ce que tu n'es pas. Les gens, ils disent, moi, j'aurais aimé être Rabbi Shimon Bar Yochai. Tu n'es pas Rabbi Shimon Bar Yochai. Et tu ne le seras pas.
Ah, c'est dommage, tu peux le devenir.
Non.
Non, impossible.
Je ne deviens pas. Je vise même pas ça. C'est bien de viser. Non, mais voilà.
Quelqu'un qui a envie d'aller dans ce chemin-là.
Je n'ai pas de libre arbitre de devenir Rabbi Shimon Bar Yochai. De la même façon que dans le monde des affaires, je n'ai pas de libre arbitre de devenir Bill Gates. Je ne peux pas devenir Bill Gates. Je peux, tout est possible. Mais je n'ai pas le libre arbitre de devenir. Je ne contrôle pas ça.
D'accord.
Par contre, je contrôle ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais. Ça, je contrôle. Je ne contrôle pas ce que je suis. Ok. Alors, on va passer maintenant à la colonne 6-8. Ok.
Combien
6-8. De toute façon, je ne dis pas tout, hein, je reprends juste les idées maîtresses. Donc, on a expliqué les deux âmes. Nous avons une âme divine, une âme animale. On a expliqué la structure de l'âme divine. Maintenant, on va parler de l'âme animale. L'âme animale, comment on dit en hébreu l'âme animale? L'âme animale, vous avez Nefesh ha behemit. L'âme animale. D'accord? La colonne 6. Donc, alors. Alors, comment nous avons expliqué, l'âme animale, elle a exactement la même structure que l'âme divine. Même structure. Ça veut dire qu'il y a la capacité de conception, la capacité de perception, la bonté, la sévérité, l'harmonie, la totale, tout. D'accord? Seulement, la différence, c'est quoi? Et là, on commence à développer. La différence majeure et principale entre l'âme divine et l'âme animale, c'est que l'âme animale est égocentrique. L'âme divine, chaque fois qu'on lui propose un projet, quelle est la question qu'elle se pose? Est-ce que c'est bon pour Dieu? Qu'est-ce que Dieu en pense? Comme il avait dit le président des États-Unis, il avait dit, ce qui est bon pour General Motors, c'est bon pour les États-Unis. C'est bon, ce qui est bon pour l'Amérique, qui est bon pour le monde. Il avait dit plusieurs phrases. Ça veut dire que, l'âme divine, elle, la question qu'elle se pose, c'est pas ce que j'en pense, c'est qu'est-ce que Dieu en pense. L'âme animale, c'est pile le contraire. C'est, elle est égocentrique. Égocentrique, ça veut dire, elle se pose constamment la question, est-ce que c'est bien pour moi? Et quand on entend cette question, la vérité, moi ça me fait réfléchir, on comprend que si on est honnête avec nous-mêmes, la majorité du temps, la question qu'on se pose n'est pas est-ce que c'est bien pour Dieu, mais c'est plutôt est-ce que c'est bien pour moi, qu'est-ce que moi j'en pense. L'homme est égoïste.
Ouais.
C'est vrai. C'est, même s'il est marié, même s'il a des enfants, etc., bon, bien sûr qu'il va penser est-ce que c'est bien pour ma femme, pour mes enfants, mais au final, la question profonde qu'il va se poser, c'est est-ce que c'est bien pour moi.
Mais Dieu, quand même, a bien équilibré les choses, quand même.
Dieu. Non, Dieu...
C'est parce que t'imagines, c'est toute la vie, le mec, il pense d'abord à Dieu, et puis il sait qu'à la fin, il y aura une fin. Mais s'il pense pas qu'à lui, il va pas y arriver.
Bien sûr qu'il va y arriver.
Le mec, il va se mettre
marrer. Le tzaddik, il n'y arrive pas.
Ok, mais il a encore un autre niveau. Lui, il est carrément dans les sphères, le mec.
Non, pas dans les sphères. Il n'est pas dans les sphères.
On n'est pas tous comme ça, hein. Mettre la tête au-dessus des nuages, c'est pas évident pour tout le monde.
C'est pas évident, mais il faut le faire. Ça veut dire qu'il faut apprendre à prendre du recul, d'arrêter de se poser la question est-ce que c'est bon pour moi, se poser la question est-ce que c'est bon pour Dieu. Je dis pas qu'on y arrive, c'est pour ça qu'on n'est pas les tzaddikim. D'ailleurs, on espère d'être des
Benoni.
Chazak, c'est bien, voilà, on a marqué des points. On espère être un Benoni. Le tzaddik, il est comme ça. Le tzaddik, il se lève le matin, il se dit pas qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui, qu'est-ce que je vais gagner aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. Il dit qu'est-ce que je vais donner à Dieu aujourd'hui. Il dit bon, comme il n'y a pas le choix, je vais mourir si je ne mange pas, donc je vais manger, juste pour ne pas mourir, tu vois.
Pour certains, quand même, le matin, il y a un bon sentiment, quand même.
Mais bien sûr.
On se lève les mains.
Oui, mais ça reste. Ça. L'homme reste égoïste. L'homme reste égoïste.
Une première partie de la journée qui consacre à Dieu.
Compris. L'homme reste égoïste.
Après le reste.
On a une âme divine.
Si on voit tout de suite un chèque de 100 000, je m'arrête de travailler toute la journée.
C'est toujours pareil.
Alors, enfin,
tu remercies l'Éternel si tu reçois un chèque de 100 000.
Après, on va rentrer plus dans les détails. Après, on va rentrer plus dans les mots. Dans le chapitre 8, on a expliqué, 7 et 8, on a expliqué que cette âme animale se décompose en deux parties. Et là, on est rentré dans le monde des clipotes. Il y avait la clipate noga et les trois clipotes. J'explique. La clipate noga, c'est une énergie neutre qui est utilisable pour le bien et pour le mal. Alors que les trois clipotes sont le mal absolu. Et je vais expliquer ce que je veux dire tout de suite avec un exemple concret. Imaginez que j'ai devant moi un steak cachère. D'accord? Et que je mange ce steak. C'est bien ou c'est pas bien?
Oui.
Attendez, réfléchissez.
Ça ne mangeait pas.
Un steak?
Un steak, hein.
Une entrecôte?
Une entrecôte?
Bien grasse.
Une belle entrecôte, bien grasse, à point.
Tu vas quitter
pour toi d'abord. Ça, vous voyez, c'est un exemple de ce qu'on appelle dans la Kabbalah, Klipat Noga. Okay. C'est une énergie neutre. C'est-à-dire, Hachem, il dit, écoute, l'entrecôte, elle est, pour moi, c'est ni bon.
Lui, il n'a pas besoin, lui.
Attendez, laisse-moi parler. Doucement. L'entrecôte, pour moi, il dit Hachem, elle est ni bonne ni mauvaise. Elle est cachère. Cachère en hébreu, ça veut dire apte. C'est-à-dire que tu la prends, c'est de l'énergie, c'est de l'essence, tu peux prendre. Alors qu'est-ce que tu vas faire avec? Peut-être que le gars il va prendre l'entrecôte pour prendre de l'énergie pour aller faire une bêtise, pour aller cogner quelqu'un.
Ah, c'est ça.
Peut-être qu'il y en a un qui va prendre une entrecôte, comme on a vu l'exemple de la Gemara, de Rava, Tu prenais de la bonne viande pour bien donner, pour mieux donner le cours de Torah. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de l'énergie neutre. L'énergie neutre, Hachem, il dit, écoute, moi, je te donne de l'énergie, cette énergie est cachère, cachère, ça veut dire apte, c'est toi qui décideras ce que tu en fais.
Donc, tu veux dire qu'avant de la manger, il dit, tiens, cette entrecôte-là...
Et tout, ça. Tout ce que non, je veux, mais... là, devant moi, j'ai une bouteille d'alcool.
Donc, dès que tu prends et que tu...
L'alcool, et là, je reviens à la question tout à l'heure, pour répondre à Serge. Cet alcool, c'est quoi? C'est Klipat Noga, c'est l'énergie neutre.
Mais
neutre, elle est neutre. Ça veut dire que Hachem dit, écoute, moi j'ai créé cette énergie, tu peux faire ce que tu veux, tu peux te bourrer pour faire l'imbécile, tu peux dire les chayim pour être joyeux. Avec la même bouteille. L'alcool est kasher. Kasher en hébreu, c'est-à-dire apte. Par contre, il y a des choses qui sont shalosh klipot atmiot. C'est quoi shalosh klipot atmiot? C'est des choses qui ont une énergie irrécupérable. Par exemple, du cochon. Imaginez une personne qui va prendre du cochon et qui va dire, je fais 15 000 Michel Bérard dessus. Et avec toutes les cavanotes, les chemichoun, la bracha, la kippa, le chapeau, comme ça, d'accord? La totale. Est-ce qu'on peut rendre cachère un morceau de cochon?
Non, c'est pas
pourquoi? Parce que l'énergie, pourtant il y a l'énergie divine dedans. Parce que l'énergie divine qui est en lui, comme on l'a expliqué au cours du matin, l'énergie divine qui est en lui est liée. Elle est bloquée. Elle peut pas monter chez la gêne. Donc jamais il s'arrête de la manger, l'énergie qui est dedans, tu peux pas la récupérer.
Il y a mal à ce moment-là.
D'accord? Mais c'est sûr qu'il y a du mal. Parce que, justement, pourquoi c'est du mal? Parce que c'est une énergie qui ne peut pas te servir.
Ah, à toi personnellement, elle peut pas.
C'est comme si dans ton moteur, tu aimes bien les voitures, toi. Au lieu de mettre de l'essence, tu mets du plomb.
Ouais,
tu pètes le moteur. Ça marche pas. Il sert le moteur, il a besoin d'essence, il a besoin de quelque chose qui peut. Voilà la même chose.
Si quelqu'un l'a ingéré.
Hein?
Encore pire si quelqu'un.
Ah oui, bien sûr. Bien sûr.
Alors pourquoi elle est créée si on ne peut pas l'utiliser?
C'est ça.
Parce qu'il y a d'autres qui peuvent l'utiliser. C'est vrai. Et aussi, nous, on finira par l'utiliser lorsqu'on y reviendra.
Bon, mais en attendant, ça fait...
T'as retenu, mais savoir comment tu...
En attendant, c'est vrai, c'est pour créer aussi le libre-arbitre, etc.
C'est ça, c'est ta force.
Voilà, donc là, si vous voulez, ça c'est la première partie du Tania. Ok. À faire notre cours, on aura 5 parties, je crois, 5 ou 6 parties, hein, 5 parties. Ça, là, on a fait la partie 1. Partie 1, c'est on a titré ça, la conception spirituelle du juif. Tout ce que je vous ai dit est écrit ici. Vous rentrez chez vous, vous pouvez réviser avec ça, mais tout ce que je vous ai dit est écrit ici. Conception spirituelle du juif. Il a deux âmes, l'âme divine, l'âme animale, et la façon comment ça fonctionne avec les clipotes. Donc, la conclusion qu'on a, si on devait résumer en une ligne, hein, comme ils disent, comment ils appellent ça, les publicistes, ils ont un mot pour ça.
Un slogan,
il nous faut une punchline, ils appellent ça. Donc, quelle est notre punchline de ce chapitre 1 à 8, d'accord? C'est qu'en fait, j'ai deux âmes, et c'est moi qui décidera laquelle j'utiliserai, c'est tout. Personne ne décidera, ni Dieu. Dieu ne décide pas qui je suis. Dieu te dit, moi je te donne, tac, 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 les fonctions. Après toi, c'est toi qui décidera laquelle tu utilises. Moteur 1, moteur 2, c'est toi qui utilises. D'accord. Maintenant, on va passer à la page, on retourne la page. Page 9, enfin, pardon, le chapitre 9.
Vas-y. Dieu ne décide pas qui je suis, d'accord, j'ai compris qu'il y a le livre arbitre dedans. Mais quand tu vois quelqu'un qui naît avec des dispositions...
Défavorisé.
Très très défavorisé. C'est comme si tu dis à un monsieur le pauvre ou à une dame le pauvre, il a pas de jambes, il a pas de pied marche.
Il peut créer une personne avec une propension pour un A, mais Hachem ne décidera jamais du résultat. Hachem ne décide jamais du résultat. Ça veut dire que Hachem peut décider dans quelle route il me met, ce qu'il met dans ma route, etc. Mais Hachem ne décidera jamais ce que moi en tant qu'acteur je ferai. Jamais.
Oui.
Sinon, tu vas à l'encontre du principe même.
Non, sinon il y a pas de
débat. Ok. Bon, maintenant qu'on a compris ça, que nous n'avons pas qu'une âme et que nous avons, Monsieur Benita, deux âmes, maintenant on va passer à la guerre. Et là, on est 9 à 17, c'est comprendre le combat des âmes. Le combat. C'est un vrai combat qui se passe en nous tous les jours. Chaque seconde. Quel est le combat? Chapitre 9, on avait expliqué que le corps est comparé à une ville que plusieurs rois veulent attaquer pour la contrôler au maximum. Très belle image du roi Salomon, ça. Le corps est comparé à une grande ville. Et vous savez, un roi, il veut tout. C'est-à-dire que si le roi, il sait, par exemple, qu'il a 99,9% du territoire et qu'il lui reste 0,1% du territoire qu'il n'a pas pris, il fera des guerres et des guerres et il dépensera des milliards de milliards de milliards.
C'est ce qui fait Bachar al-Assad.
Exactement, d'accord? Il veut tout. Parce que Bachar al-Assad, c'est pas parce que Bachar al-Assad seulement. Non, c'est un roi. C'est un roi. C'est pas un diplomate. C'est pas un diplomate, c'est un roi. C'est pire que c'est un roi. Un roi, il veut tout. Tu peux parler des Marocains aussi. C'est-à-dire que même un roi, si c'est que parmi tous ses sujets, il y a un sujet qui lui tient tête, il ne peut pas dormir. Il ne peut pas dormir tant qu'il ne l'a pas fait disparaître.
Mais son économie.
Alors, dites-vous maintenant, deux secondes, que de la même façon, notre corps est comparé à une ville. Il y a deux rois qui se battent constamment. Qui sont les deux rois? L'âme divine, l'âme animale. Chacun des deux rois veut prendre le contrôle total du corps. L'âme divine a envie de faire de moi un type matérialiste, mondain, malsain, ce qu'on veut, etc. Ça, c'est l'âme animale. Alors que l'âme divine veut faire de moi un type sain, détaché de la matière, orienté vers Akadosh Baruch Hu, etc. Le problème, c'est que ça tire les deux sens. Les deux veulent quelque chose qui est complètement contradictoire. Alors, on avait expliqué, dans le chapitre 9, que chacune des deux âmes a un quartier général. Le quartier général de l'âme divine se trouve dans la tête. Le quartier général de l'âme animale, c'est le cœur. Parce que le cœur, c'est les pulsions. Les pulsions, c'est moins contrôlable, alors que la tête contrôle. Donc, la tête, et c'est là que se trouve l'âme divine. Et donc, chacun des deux, l'âme divine et l'âme animale, cherche à diriger mes sentiments, mes réflexions, mes amours, mes craintes dans cette direction. Tout. D'accord? Ça veut dire que l'âme divine, par exemple, elle veut que j'aime la Torah. L'âme animale veut que j'aime les bêtises. L'âme divine veut que je pense à la Torah. L'âme animale veut que je pense à mes affaires. C'est pas forcément mauvais de penser à ses affaires. Mais c'est une guerre constante. Et là, dans cette guerre, on a trois types d'acteurs. Qui sont en fait, c'est pas seulement trois types d'acteurs. Parce que c'est plus que ça, c'est trois types de conception d'âme. C'est un point très important de Tania aussi. Il y a des gens qui s'en veulent toute leur vie, pourquoi ils ne sont pas tzaddiques. Et là arrive le chapitre 10, et il t'explique une idée très importante, il te dit, c'est pas qu'il y a un bon acteur, un mauvais acteur, il y a un bon élève, un mauvais élève. C'est dès le départ, Akadosh Baruch Hu a créé trois types d'acteurs. Trois types d'acteurs. On a le tzaddik, qui a été conçu comme ça, on va expliquer. On a le rachat, qui a été conçu comme ça. Et le Benoni qui est un rachat amélioré. Alors j'explique c'est quoi. Nous avons d'abord le tzaddik. C'est quoi le tzaddik? Le tzaddik, je suis au 10, tzaddik, le tzaddik parfait et le tzaddik presque parfait. Le tzaddik, c'est celui qui a gagné sa guerre contre les tzara. Il contrôle entièrement son corps. Il n'a pratiquement plus de pulsions négatives. Donc je pense que, moi en tout cas je parle pour moi, je ne suis pas tzaddik. S'il y a un tzaddik ici, qui se présente.
C'est difficile d'arriver à ça. Hein.
C'est pas difficile, c'est impossible.
Impossible.
C'est impossible.
À sa position.
Mais c'est impossible, mais on ne peut pas s'en vouloir. C'est comme quelqu'un qui a une Renault, on ne peut pas lui en vouloir de ne pas avoir 1000 chevaux. Il ne les a pas, il ne les aura jamais. Donc il n'est pas fait pour.
Ah, pourquoi il nous parle de ça?
Attendez.
Parce qu'on ne peut jamais arriver.
Parce que ça. Non, justement. C'est parce que c'est important. C'est pas un objectif, c'est important de comprendre qui suis-je. C'est important de comprendre qui suis-je. Parce qu'il y a des fois des gens, M. Benita, pour reprendre votre question, des gens qui se disent comment, avec tous les efforts que j'ai faits, tout le mois de fête que je suis passé, comment je peux avoir des trucs qui me passent par la tête comme ça? Comment c'est possible? Makara, qu'est-ce qui se passe? Alors on t'explique, on te dit écoute, si tu étais tzaddik, ta question aurait été bonne. Tu n'es pas tzaddik.
Donc c'est normal,
c'est hein? Mais bien sûr.
C'est parti du décor alors.
Le tzaddik, d'accord, il contrôle complètement son corps et il a gagné la guerre contre le Yitzhara. Seulement, la Gemara nous dit qu'il y a deux types de tzaddikim. Tu as un tzaddik parfait et un tzaddik presque parfait. Le tzaddik parfait, c'est celui que non seulement qu'il a gagné la guerre contre le Yitzhara, mais dès qu'il voit du mal, il a envie de vomir. Le tzaddik presque parfait, il n'a pas envie de vomir. Mais ça veut dire, c'est même pas, ça lui effleure l'esprit. Ça, on peut même pas s'imaginer ça.
C'est vrai, mais non, on peut pas savoir
non,
qui c'est qui est tzaddik, qui est presque, qui est pas presque.
On peut pas savoir.
Et les critères, on connaît pas.
Non. Monsieur Benita, c'est une très bonne question que vous posez. Mon objectif ici, c'est pas de savoir qui Monsieur Benita est et qui David est et qui etc. Mon objectif, c'est de savoir qui suis-je. Et moi, je me connais. Donc moi, déjà, je sais que je suis pas tzaddik.
D'accord. Mais sans être tzaddik, notre corps nous parle quelquefois. Ça veut dire que tu es devant un événement, quelque chose comme ça. Et tout à coup, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Donc il y a quelque chose qui est à l'intérieur. C'est quelque chose que tu vis, toi, quoi. Donc forcément qu'il y a deux choses qui vont les unes contre
ça,
les autres.
Ça, on peut pas comprendre ce que c'est.
Mais c'est, voilà, c'est incompréhensible. Mais,
par exemple,
mais ça se passe.
Vous avez une fois une vidéo, je sais pas si, qui avait tourné. Miss Israël. Miss Israël. Elle était partie chez le rabbi pour prendre le dollar.
Bon, un dollar, c'est
cool. T'es un peu gêné, tu vois. Elle passe devant le rabbi pour prendre le dollar. Et le rabbi, c'est même pas qui c'est. D'accord? Rabbi, c'est même pas qui c'est. Le rabbi lui dit comme ça, commence à lui parler de... Alors, il y avait un, je crois qu'il y avait un agent avec elle. Qui lui dit, vous faites partie d'une délégation, etc. Tu savais comme ça. Bon, évidemment, c'est pas, on n'était pas une, un roi à Kodesh près. Et il commence à lui dire que la beauté intérieure doit refléter la beauté extérieure, etc. Enfin, il lui vient un truc sur la beauté. Alors, celui qui voit cette vidéo, il dit, bon, c'est Miss Israël. C'est une belle femme, si tu veux. Ouais. Mais ça dit qu'il voit pas la même chose. Il voit une beauté de Neshama. Ouais. D'accord? C'est-à-dire, on peut même pas comprendre ce que c'est. Même pas, tu peux comprendre. C'est une autre, il y a des histoires bémettes dans la Gemara comme ça. C'est des kim comme ça qui sont. Des fois, tu parles à quelqu'un, tu parles pas la même chose. Tu parles pas la même chose. C'est le tzaddik. C'est-à-dire qu'il a pas de guerre, Bichlal. C'est pas qu'il a une guerre qui s'est retenue de pas regarder. Il y a des cas dans la Gemara comme ça aussi. Tu te racontes, il s'est retenu de pas regarder. Il avait une tentation. Il a dit à ses élèves, aidez-moi, ramenez-moi chez moi, etc. Oui. Oui. Voilà, il y a des. Yosef.
Pour Israël, pourquoi? C'est pareil. Non, c'est vieillesse, on a dit qu'il
n'y a pas. Ah oui, d'accord. Il y a des cas comme ça. Après, il y a des cas où on rentre dans une autre dimension. Qu'est-ce que c'est le tzaddik? Maintenant, on a le rachat. Donc, vous avez compris, le tzaddik, c'est. Bah, le tzaddik, c'est, voilà, c'est le top. Bon, on n'est pas tzaddik. Ni parfait, ni imparfait. Voilà. Bon. Après, tu as le rachat. C'est quoi le rachat? Le rachat, c'est celui qui se laisse aller et que parfois, le Yetzara prend le contrôle de son corps. Parfois. Et là, on a un rachat absolu et un rachat partiel. Le rachat absolu, c'est celui qui ne contrôle rien dans son corps. C'est-à-dire toute sa journée, du matin jusqu'au soir, c'est ses pulsions qu'il maîtrise. Il y a des gens comme ça. Du matin jusqu'au soir, il ne contrôle rien. Ça peut être quelqu'un qui a beaucoup d'argent, c'est pas quelqu'un qui a pas d'argent du tout, peu importe. C'est une personne qui n'a plus aucun contrôle. Il ne se contrôle plus du tout. Ça, c'est un rachat absolu.
Est-ce qu'on peut dire qu'un rachat absolu, il a raison, peut-être qu'il n'est pas conscient?
Ouais. Parce, bien sûr, après, une fois que tu comprends, c'est comme quelqu'un, par exemple, qui a sauté. Je réponds à ta question. Il a sauté du toit. Pour l'instant, tout va bien. Après, il arrive juste en bas, il dit, ah, j'arrive plus à m'arrêter. Papa, c'est pas maintenant qu'il faut regretter. C'est en haut qu'il faut le regretter. C'est la même chose. C'est-à-dire que le rachat.
C'est comme une addiction. Il sait qu'il est dans le mal, le plus absolu. Bon. Il se rend compte de ce qu'il fait, mais c'est comment je fais pour revenir.
Très bien.
Mais il sait qu'il est dans le mal.
C'est pas la question. Ce que je veux dire simplement, c'est pour la définition. Le rachat absolu, c'est une personne qui ne se contrôle pas. D'accord, c'est. Voilà. Il y en a, il m'a dit, comme. Je sais pas, il y avait un truc, c'est Scarface, voilà. Scarface, je sais pas, il m'avait raconté une histoire d'un gars qui était dans la folie, jusqu'à qu'à la fin.
Il a fait ça.
Ah, c'est quoi, c'est drogué, non, c'est drogué. Bon, lève deal. Ça, c'est un rachat, tu vois.
Al Pacino.
Un rachat, c'est, il va. Mais, il se contrôle même plus. Après, tu as le rachat partiel. C'est quoi le rachat partiel? C'est celui qui, parfois, ça lui arrive de pas se contrôler. Donc finalement. Nous sommes tous rachats. Parce que quand je dis partiel, ça peut être partiel à 1%, partiel à 10%, partiel à 30%, partiel à 50%. Ouais. Donc peu importe qui on est, même si je dis que je faute 1%, je suis rachat partiel. D'accord? Ouais. C'est quoi le Benoni? Le Benoni, c'est un type qui est conçu comme un rachat, c'est-à-dire qu'il a des pulsions non-stop, comme le rachat. Mais il ne laisse, chapitre 12, il ne laisse jamais les pulsions de l'âme animale contrôler ses pensées, ses paroles ou ses actions. Ça veut dire qu'au fond de lui, il est constamment attaqué. Mais dans les faits, il se contrôle tout le temps. Donc évidemment, je pense, on peut définir ça, le Benoni, c'est le Superman du Tania. Bah, magnifique. Il est constamment en guerre. Il s'arrête pas. Parce que le Yitzhara, il n'en rate pas une.
Parce que le maximum que nous on peut faire, c'est là.
Ah oui.
C'est le Benoni.
Exactement. C'est-à-dire, être tzaddik, je ne deviendrai pas parce que je ne suis pas conçu pour ça. D'accord ? Benoni, je peux, ça, Benoni, c'est là j'arrive à votre question, je peux espérer le devenir. Parce que ça, Benoni, je peux le devenir. On peut imaginer, par exemple, qu'on a fait des bonnes journées. Il y a des bonnes journées qu'on fait. On fait des bonnes journées, une journée clean, sans rien.
Mais c'est pas constant.
Quoi ? Ah, voilà.
Non, mais le Benoni,
c'est pas constant.
Le Benoni, il ne faute pas, mais il est attiré vers la faute. Comme tout le monde. Voilà. Donc le Benoni, c'est un gars comme nous. C'est un gars comme nous qui est attiré vers la faute, mais la seule différence, c'est que le Benoni, il a une maîtrise absolue de soi-même. Il a une maîtrise, mais il n'a pas gagné la guerre contre le Tzara. Mais il a une maîtrise. Il arrête pas. Hein? Quoi?
Il a gagné, il arrive à le
dire. Non, il n'a pas gagné. Quand tu as gagné, c'est quand tu as mis l'ennemi par terre.
Ah oui, d'accord.
Finalement, c'est le but de l'homme. Alors.
L'ennemi, l'ennemi, il n'est pas par terre.
Finalement, c'est le but de l'homme d'être Benoni.
Évidemment. C'est pour ça que le Tania est appelé Sefer Shel Benonim. Le livre de Benonim. Alors c'est vrai que quand on avait commencé Tania, il y avait plusieurs qui ont posé la question, ça fait quelques années, il y a plusieurs qui ont posé la question, qui avaient dit, mais c'est bizarre de commencer un livre en disant le livre des moyens.
Ouais,
on n'aime pas ce mot. Le livre des moyens, donnez-moi le livre des tops. Des moyens. D'emblée, tu veux commencer, seulement comprendre que le Benoni du Tania, c'est un très 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 grand tzaddik, c'est Benoni du Tania. Seulement, pourquoi on l'appelle Benoni? Parce que par rapport à un tzaddik, on l'appelle Benoni. Le tzaddik, il a plus dit ça. Et je ne rentre pas dans la question de mérite ou pas mérite, parce que, comme vous avez dit, le Benoni a certainement plus de mérite que le tzaddik. Évidemment. D'accord? On avait donné un exemple une fois pour expliquer la différence entre le Benoni et le tzaddik. Si vous voulez, c'est comme vous avez deux types de courses.
La piste noire.
D'accord? Vous avez une piste de course.
La piste noire,
vous avez une type de course dont vous met, vous savez, aujourd'hui, vous avez des voitures qui sont à l'hydrogène, dont vous les mettez dans le désert. Dans un endroit où il n'y a presque pas de vent. Mmh. On vous les fait monter en ligne droite à 1400 km/h.
Ah, plus à 1400.
Ouais. C'est-à-dire que ça va tellement vite que.
Ça
s'envole. Donc on doit la concevoir. Bon, déjà, à partir de 200 km/h, on peut s'envoler, mais on doit la concevoir avec un système aérodynamique,
oui.
Pour ne pas que ça décolle. En ligne droite. Ça veut dire que. Comment tu vas évaluer les performances de cette voiture? Je ne sais même pas que ça. On n'appelle pas cette voiture, il y a un nom. Comment tu vas évaluer?
Dragster,
voilà. Quel point elle a fait, quel point de vitesse elle a fait, en combien de temps, quelle vitesse, qu'est-ce qu'elle a fait. D'accord. Elle est faite pour 1400 km/h. Après, d'un autre côté, t'as d'autres courses, dans lesquelles on va te prendre une voiture avec du fer partout, etc. Et tout. On va la mettre dans un endroit où il y a des ravins, des trucs, etc., des virages partout dans tous les sens. Bon, il va monter à combien la voiture? Même dans les petites lignes droites, il n'y a pas de ligne droite. Mais même quand elle accélère, etc., il est constamment rétrogradé, accéléré, il va monter à combien? À 100 km/h, 150 km/h?
Okay.
Impossible, il ne peut pas aller plus loin que ça. Alors, tu vas dire lequel est le plus fort? Lequel est le plus fort? Alors, mon fils me posait la question, il avait une fusée, etc. Il m'a dit lequel est le plus fort? La fusée ou le bateau? Bon, c'est pas la même chose. Ça veut dire. Tu comprends, c'est pas la même chose. Celui-là, le dragster, il est là pour faire du chiffre. Il est là pour faire du chiffre. L'autre, il est pas là pour faire du chiffre. Il est là pour surmonter les obstacles. Et chacun, Razak, chaque moteur a été conçu différemment. Et évidemment, le moteur de, je sais pas comment on appelle ces courses dans les montagnes, d'accord? Il est beaucoup plus endurant que le moteur du dragster. Ça n'a rien à voir. Il est infiniment plus endurant parce qu'il est constamment sollicité. Constamment sollicité, tac, 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 sollicité, tu n'arrêtes pas. Ben, si vous voulez, ça c'est la différence entre le tzaddik et le Benoni. Le tzaddik, on met sur la ligne droite, quand même, ça peut être une fusée aussi. On dit tant qu'on t'arrête pas, tu t'arrêtes pas. C'est la fusée, vous savez, une fois qu'elle a dépassé l'attraction terrestre.
Elle
peut aller à l'infini, elle peut tourner.
C'est pas besoin de puissance après.
Il n'y a plus besoin de puissance. Tant que tu l'arrêtes pas, elle s'arrête pas. Elle peut rester des années.
Ah.
Il y a des sondes qui ont été envoyées, ça fait 40 ans, dans le ciel, qui sont encore en train de tourner.
On n'arrive plus
forcément à communiquer avec elles. On communique par radio. Il y a des sondes qu'il faut un mois pour communiquer avec elles.
Mais
il y a des sondes qu'on n'arrive même plus à communiquer avec elles. Mais elles tournent tout le temps. Elles tournent. Ça ne s'arrête pas. Parce que, voilà, là, c'est le tzaddik. Tzaddik, tu l'envoies. Par contre, nous, on n'est pas les tzaddikim. Celui qui n'est pas tzaddik, lui, d'accord,
Lui.
Il combien était la voiture la plus rapide, mais je crois que c'est daté 1300.
Combien?
Non, je sais pas, j'ai vu Traxter en 651. 1300, ça me.
Le record c'était 2000, presque 2000.
Oh oui, non, bien sûr, il y a.
C'est McGeux. McGeux, hein.
Ah bon, sur terme,
oui. Au matin et demi, alors.
Mais ce sadique, là, que vous dites.
Alors, le Benoni, lui, je disais, je termine le raisonnement. Le Benoni, lui, c'est comme cette voiture qui est dans ce rallye. Ça veut dire que, une seconde d'inattention, il tombe dans le ravin. C'est ça, le Benoni. C'est pour ça que nous, même si on essaie de faire un bon mois de ticherie, on essaie de faire des belles fêtes, etc., une seconde d'inattention, le Tsar, il fait tomber. Et le Benoni, il est constamment aux aguets. Il lâche rien. Ça, c'est un Superman.
C'est un Superman.
C'est un héros. C'est un héros,
bravo,
celui-là.
Bravo.
Il a du mérite. Ça, c'est l'objectif du Tania. L'objectif du Tania, c'est de nous aider à devenir Benoni. Il y avait une question. Quelle est une question?
Oui, le tzaddik.
Oui.
Le tzaddik, finalement, il est malheureux. Parce qu'il vit dans un autre monde.
Non,
pas du tout. Il est
dans un monde, là, avec nous matériels. Et lui, il est là-haut.
Mais il a d'autres challenges. Lui, son challenge, c'est de faire du chiffre. Il est là, il fait du chiffre. Moi, mon challenge, c'est pas de faire du chiffre. Mon challenge, c'est de jongler avec ce que j'ai et d'essayer de pas tomber. On marche sur un fil. On marche sur des œufs. Et le Sahara, il te lâche pas. Une seconde d'inattention, il te fait tomber. Tu te lâches pas. Ça sera de n'importe quand.
C'est un combat.
Et là, maintenant, surtout avec l'idée du Tania, on a compris que c'est pas seulement une histoire de deux penchants. Rappelez-vous, ce sont deux âmes. Ça veut dire que j'ai un ennemi qui est en moi.
Oui, c'est-à-dire il y a des intérêts contradictoires.
Et à la veille. Voilà, intérêts contradictoires. Ok. Alors là, on va passer à la colonne 13-17. Et là, on va terminer avec ça pour aujourd'hui. On va parler du Benoni. Le Benoni qui est le héros du Tania. Alors, c'est intéressant. Parce que on avait amené un passou qui dit comme ça, un passou qui s'intègre la Gemara, qui dit, Afil ou kolalam kolam rimlecha tzadikata, même si le monde entier te dit que tu es un tzadik, eye benecha keracha, soit à tes yeux comme un rachat. Comment on se considère comme un rachat? On a posé la question. Si je me considère comme un rachat, je vais fauter. Je vais négliger la faute. C'est vraiment comme un rachat. C'est-à-dire qu'en vérité, on a expliqué que le Benoni, c'est un cas très intéressant. Parce que d'un côté, par rapport à ses pulsions, il est exactement comme le rachat. Mais d'un autre côté, par rapport à son comportement, il est exactement comme le tzaddik. Ça veut dire que toi, tu peux voir une personne qui, extérieurement, il est irréprochable. Et même intérieurement, il est irréprochable. Mais en vérité, c'est une guerre constante. Tu ne peux pas te fier aux apparences. D'accord? Seulement, on a expliqué qu'il y a différents types. Il y a différents types de Benoni. Tu as l'érudit. Et tu as l'homme d'affaires. C'est quoi l'érudit et l'homme d'affaires? Pourquoi je dis ça? Ça veut dire que il y a différents types de Benoni. Certains Benoni qui est là en train de constamment d'étudier la Torah et qui est constamment attaché à ses livres. Et t'as un autre qui est dans le monde des affaires. Évidemment, quand on est dans le monde des affaires, c'est plus difficile d'être Benoni. Parce que celui qui est dans sa yeshiva enfermé dans son cocon. Bon.
Il n'y a pas de tentation.
Il y a toujours des tentations, mais il n'y a pas vraiment de tentation.
Beaucoup moins.
Alors que celui qui est dehors.
Ah oui. La ruse.
Il suffit d'une seconde d'inattention. Tac, il est dehors, il est sur le chantier, il est dans la rue. Il a eu.
Il y a la tentation.
Une personne qui lui a fait un sourire. C'est fini, il a décollé. Où tu décolles, calme-toi. Où tu décolles, où tu vas comme ça. C'est fini, il est parti, il est parti ailleurs. Makara. Ça veut dire qu'il suffit d'une seconde d'inattention. Et on peut pas s'en vouloir pour ça. Ça veut pas dire qu'on est pervers. Je prends cet exemple parce que c'est l'exemple qui amène le Tania, c'est l'exemple qui amène la Torah dans le schéma. Mais ça veut dire que c'est pas parce qu'on est pervers, c'est parce que le Yitzhara, il te lâche pas. Dès qu'il y a une faille, il rentre dedans.
Mais en même temps, on n'est pas des robots. Hein.
Non, on n'est pas des robots.
Dieu nous a créés comme ça.
On peut devenir
Benoni. On doit travailler sur
Hachem ça. Hachem nous a donné la possibilité de nous contrôler. On peut nous contrôler. L'homme peut avoir un contrôle intégral de sa personne.
C'est vrai, mais Hachem aussi, il a donné une belle fille, une beauté, etc., c'est haram de ne pas l'avoir.
Elle a un mari.
Tu dois faire une bénédiction.
Mari ou pas mari, je fais pas du mal.
Non, mais
on la regarde.
Non,
il inverse. Lui, au lieu de dire c'est péché là-bas, il a dit c'est péché.
Il a, non, il a dit. C'est intéressant comment il a. Vous auriez fait un bon avocat. Lui, il a mis ça sur la tête de Dieu. Il a dit Dieu, il a créé.
Il a créé ainsi. Alors.
Alors.
Il a dit, donc il a créé cette beauté. Pourquoi ne pas l'avoir?
Mais monsieur Benita, si vous étiez au cours de. Si vous étiez au cours de vendredi soir. On a expliqué que dans l'absolu, Dieu n'a pas, il n'y a pas de mal dedans, dans la beauté, par exemple. Qu'est-ce qui crée le problème? Le problème, c'est la pulsion qu'il y a derrière. C'est pour ça que Adam et Chava, avant qu'ils aient commis la faute, ils n'étaient pas gênés par la nudité, parce que l'organe génital, c'est un outil comme un autre pour procréer. C'est comme j'ai une main pour prendre, ben j'ai un organe génital pour procréer. Qu'est-ce qu'il y a? Mais une fois que l'homme a fait la faute, Adam et Chava ont fait la faute. À partir de ce moment-là. On n'a plus le même regard sur les choses. C'est quelque chose qui est naturel, qui est mignon, comme un petit garçon de 2 ans, regarder une petite fille de 2 ans. Ben, quand on grandit, ça prend d'autres proportions. Vous comprenez ce que je veux dire? Ou vous faites un dessin?
Oui, oui, d'accord. Non, j'ai compris. Bon, mais.
Ben voilà.
D'un autre côté, c'est parce que justement, elle a grandi, qu'elle est devenue encore plus belle, et que.
j'ai compris. J'ai compris, mais la question n'est
pas chère à chérir.
Alors, c'est
pas interdit de voir une beauté comme ça, c'est une créature de Dieu.
Monsieur Benita, la question n'est pas est-ce qu'elle est belle ou pas.
Charles.
La question n'est pas est-ce qu'elle est belle ou pas, elle est belle. La question n'est pas là.
Ah, pourquoi c'est interdit de la voir?
La question est qu'est-ce que moi j'en fais?
Tu touches avec les yeux, tu regardes avec les mains.
Charles, c'est pas que tu la regardes. C'est ce que ton itinéraire te demande d'en faire.
Mais qui parmi vous ici ne regarde pas les femmes?
Allez.
Vous.
Moi je dis la vérité, oui. Quand tu es une belle femme, je la regarde.
Je pense que ça n'existe pas.
Mais évidemment, ça n'existe pas.
L'homme, ça n'existe pas. Même si cela vous parle.
Du mal.
Mais même s'il n'avoue pas, forcément,
bon.
Un regard de l'autre.
Bon, enfin, allez. Non, mais voilà. La Torah l'interdit.
Interdiction formelle.
C'est donc, je reprends.
Fini.
Dans le chapitre 14, nous avons expliqué que chacun de nous, et là je réponds à la question de Michel.
Quand on a un chidour, par exemple, on est obligé de la regarder, non?
Oui, mais il y a regarder.
Ah oui.
Est-ce qu'elle va nous plaire ou pas?
Elle doit te plaire. Bah, plaire, c'est une chose. Plaire, c'est une chose.
Les qualités, c'est autre chose.
Hein? D'accord. Non, c'est pas que la qualité de lui plaire aussi physiquement. C'est normal. Ouais, ouais. De lui plaire physiquement. Après, il y a cette notion. C'est de gens, qu'est-ce que l'homme pense? À quoi l'homme pense? C'est ça, c'est important.
Tous les autres. Construire.
Hein? Ah oui.
Ça.
Il faut pas. Je vais être clair. Est-ce que quand M. Benita dit, voilà, il regarde une femme, par exemple. Qui est en éveil en moi? C'est pas mon intellect qui est en éveil, c'est l'aspect animal qui est en éveil. Oui. C'est mon âme animale. Je le regarde comme un chien regardait une chienne. Je m'excuse du terme. Ça veut dire c'est l'aspect animal qui est en moi. Et l'aspect animal, c'est très primitif et c'est très bas, très bas comme pulsion.
Et ça peut aller très loin.
On peut pas se laisser contrôler par nos pulsions. Après, il y a pas de limite. Bon, alors on y va, on continue.
Bon.
Ah oui.
On regardera plus les femmes.
Les mecs. C'est le mal de Dieu. Mais on a fait un coup à suivre. Si tu la vois dire, tu prends conscience, tu as vu que tu l'as
voilà.
Dit.
Oui.
Ils ont montré, je crois, à un moment donné, je sais pas si c'est un sketch ou quoi, 2 hommes portaient la burqa ou je sais pas quoi. Un truc que vous voyez pas grand chose.
Ah, c'est la prochaine étape. Ok. Ouais. On va juste terminer 14, 15, 16, 17. Hein, comme ça, on va terminer la colonne. 14. Chacun peut être Benoni. D'accord? D'où on sait que chacun peut être Benoni? C'est très simple. On sait bien que chaque juif est prêt à donner sa vie pour Dieu. Alors seulement, c'est un cas extrême. Tu dis, donner ma vie, s'il faut. Si on me dit, convertis-toi au christianisme ou je te tue, je me laisserai tuer.
D'accord.
2 secondes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vois qu'en vérité, et on a des exemples de juifs qui étaient très 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 loin, dès qu'on leur a dit ça, et malheureusement par dizaines et par centaines, ils ont dit non. Et c'est sûr que chacun de nous autour de la table, si ça arrivait, chas et shalom, ça n'arrivera pas. Si ça arrivait, on l'aurait fait. Bon, quelle est la différence? Dis, attends, c'est pas la même chose. Dis, ça, c'est important, ça. Mais, tu vois, il y a une femme qui passe, regardez, pensez, bon, c'est pas la fin du monde. Mais en vérité, c'est un piège du Yetzara, ça. C'est un stratagème du Yetzara. Le Yetzara, il te crée des catégories. Il dit, ça, c'est important. Ça, c'est pas grave. Et si en vérité on arrivait à se convaincre, ce qui est la réalité, que ça c'est la volonté de Dieu, et ça c'est la volonté de Dieu, donc si pour ça je suis prêt à donner ma vie, pour ça on ne demande pas de donner ta vie, on demande juste de contrôler tes pensées, tes paroles et tes actes. Et c'est là qu'on a expliqué la définition de la folie du Yetzara. C'est quoi la folie? Parce que le Yetzara, il est obligé de te rendre fou. La Gemara a dit un homme ne faute pas s'il n'est pas fou. C'est quoi le roi Shtout? C'est quoi la folie du Yetzara? La folie du Yetzara, c'est cette idée de te dire t'inquiète pas, il va rien se passer. So what? Et alors? Et alors? D'accord? Ça veut dire que quand tu vas lui dire convertir, il va dire non, je peux pas. Maintenant, quand tu vas lui dire bon, écoute, une petite Avera, par-ci, par-là, bon, voilà. D'accord? Il va dire bon, et alors? Tu vas dire maintenant, ça se fait pas. Mais le Yetzara va dire alors, c'est pas grave, t'inquiète pas, tu rejoues quand même. Ça, c'est la folie du Yetzara. La folie du Yetzara qui me crée des catégories, dans la mitzvot. Alors après, dans le chapitre 14, on avait expliqué des techniques de combat, si on peut appeler ça comme ça, du Benoni, pour se dégoûter du mal. C'est-à-dire, voilà, c'est un travail en vérité à faire,
C'est le Krav Maga, là.
Voilà, c'est là où on est en Krav Maga spirituel.
Il faut des pare-feux, là.
Hein?
Il faut des pare-feux.
Mais on le fait
là,
constamment.
Maintenant, attends, il y a 25-30 ans en arrière, il n'y avait pas aujourd'hui ce qu'on appelle le fameux Facebook, le truc, le machin. Aujourd'hui, tu es inondé d'images, non, mais sans que tu veuilles demander quoi que ce soit.
Oui,
on t'envoie un message, des tags, même tu reçois un truc.
C'est vrai.
J'ai rien demandé. C'est pas pareil, là, tu vas pas chercher. On t'a envoyé, t'es en communication avec quelqu'un.
Donc, c'est toi de.
Non, mais attends.
Avant, il n'y avait pas la télé.
Non, mais pas Facebook, je parle pas de.
Facebook, tu sais des personnes.
Mais je parle pas de quelqu'un. Aujourd'hui, tu peux communiquer, on t'envoie une vidéo, une histoire drôle, un machin, un truc. Enfin, c'est parce que c'est au début, tu l'ouvres. Et puis là, t'es surpris, bam, tu tombes sur quelque chose.
Ouais. C'est vrai.
T'as rien demandé. Là, il est déguisé, le Yetzara.
Bon, bien sûr, il est
déguisé. Là.
Avant, il y avait la télé, avant, il y avait les kiosques.
Tu supprimes après.
Tu peux supprimer entre temps.
Mais c'est pas grave, tu savais pas.
Non, mais c'est pas ça que je veux dire. Mais
bon.
C'est le piège parti.
Michel, il faut éteindre tout de suite quand tu vois ça.
Ah non, mais ça, tu vis plus avant.
Attention.
Non, après, tu vis plus.
Ah non.
Mais tu l'as travaillé, tu vois un outil de travail.
Quand tu vois, c'est quelque chose qui vient du mauvais penchant, il faut couper tout de suite.
Et on vit.
Tu peux couper, le problème, il n'est pas là. Mais tu as travaillé,
attends,
t'as besoin de travailler.
Michel, on vivait, on a très très bien vécu, nous, des générations, sans Facebook, sans machin et tout. Tu peux très bien, moi j'ai des gens qui n'ont rien du tout, qui ont ni Facebook, ni des
amis. Il n'y avait pas de problème quand vous étiez jeune. Il y a d'autres problèmes,
c'est dans la culture, ils n'ont rien à battre.
Peut-être plus de mérite, je
ne
sais pas.
C'est un autre débat. Bon, on va terminer. Alors, chapitre 15. D'accord. Donc maintenant, dans le Benoni, nous avons deux types de Benoni. Nous avons le Benoni bosseur et l'habitué. J'explique ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a deux types de personnes. Même chez les Benoni, il y a des gens qui, pour eux, le combat restera toujours aussi fort. Jusqu'à la tombe. Le Yetzara, il ne lâchera pas. D'un iota. Tout le temps la guerre. Il y a d'autres personnes qui ont une autre nature. Et eux, avec le temps, ils vont s'habituer. Et le Yetzara les dérangera moins. Ils ont toujours un Yetzara, ils ne sont pas sadiques. Mais c'est des gens qui ont, on va dire, qui prennent les vitesses de croisière. Après, ils ont bon, Sarah, il les laisse tranquilles pendant quelques semaines, quelques mois. Et chacun de nous, il doit savoir dans quelle catégorie il rentre.
Pendant des années.
Est-ce qu'il est plutôt une catégorie où le Sarah, il l'oublie pendant des mois, ou est-ce qu'il est dans une catégorie où le Sarah, il le lâche pas plusieurs fois par jour? Et ce qu'on a expliqué, c'est que celui qui se bat constamment contre le Sarah, il a plus de mérite que celui qui ne se bat pas. La Gemara l'appelle Oved Elokim, la Sher Lo Avado. La différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Ça veut dire que Celui finalement qui ne se bat plus avec son Yetzara, même s'il en a toujours mais il ne se bat plus, il ne sert pas Hachem. Oved, c'est Eved. Eved, c'est un esclave. Un esclave, c'est que c'est dur. C'est-à-dire que plus c'est dur, plus le mérite est fort. Pourquoi Hachem il a fait ça? La question qu'on avait posée, pourquoi Hachem il a fait ça?
Il a du mérite.
Pourquoi Hachem il a fait ça? On a expliqué, parce que Hachem il a deux catégories de plaisir. Hachem il a deux catégories de plaisir de seconde. Il a créé deux catégories. Il a un plaisir de voir des gens comme les Tzedikim qui vont faire du chiffre. Et il a un plaisir de voir des gens qui vont se battre. C'est un autre plaisir pour Kadosh Baruch Hu. Et l'un comme l'autre font plaisir, à Kadosh Baruch Hu. Alors enfin, chapitre 16 et 17. 16, on a expliqué qu'on doit chercher à changer par la méditation. La clé du Benoni, parce que le problème c'est que des fois je dis mais je ressens rien, j'ai rien à faire. C'est le pire ça. S'en fiche. Et Rosh Hashanah et Kippour, je m'en fiche. Ça me parle pas. Comment je fais? Je ne sens pas. Ça, c'est un problème, c'est un vrai problème, ça. Et là, on a expliqué que la clé du Benoni, c'est quoi? Et là, on arrive, Chabad, c'est la réflexion, la méditation. c'est que même si tu ressens rien, tu continues à méditer. Parce que la méditation a un pouvoir de générer des sentiments au bout du compte. Ça, c'est un principe que vous pouvez appliquer dans toute votre vie. Par rapport à votre femme, par rapport à vos enfants, par rapport à des autres. Je ressens plus rien. Tu ressens rien, il faut méditer. Médite à Dieu, que ce qui est dû pour toi. Médite à autre chose, ta femme, à tes enfants. Mais médite ce que ça représente pour toi. Et automatiquement, la méditation, au bout d'une semaine, d'un mois, de deux mois, de trois mois, ça prendra le temps que ça prendra. Mais la méditation, ça c'est une clé très importante chez le Benoni, la méditation finira par porter ses fruits. Et même si ça ne porte pas tout de suite ses fruits, il faut savoir que ça finira par porter ses fruits. Et là, on avait expliqué dans le chapitre 16 la consolation qu'on donne au Benoni, qu'on lui dit qu'il doit savoir que même si des fois ça lui prend des années, c'est-à-dire des fois c'est très dur, des fois il bosse pendant des mois pour arriver à un résultat, et en une seconde tout tombe. Imaginez quelqu'un, ça fait 40 jours qu'il a bossé pour arriver à un kippour. Elle a bossé pendant 40 jours, le Sahara, il vient comme une fleur, en 5 minutes il fait tout sauter. 40 jours de boulot, une minute il fait tout sauter. Comment il a fait? Ça c'est la consolation. Tu ne crois pas que les 40 jours que tu as fait c'était perdu. Tout ce que tu as fait, ça servait à quelque chose. T'es tombé, tu vas te relever. Mais ne dis pas que tout ça fait, c'était pour rien. Hachem, il te connaît. Alors bon, t'as pas réussi cette fois-ci, tu réussiras une autre fois. D'accord? Et là, on est arrivé enfin. Kikarov et lecha adavar me'od. Karov et lecha. Moshe Rabbeinu, il s'adresse au peuple d'Israël, leur dit, sache que la chose est proche de toi. Ça veut dire que chacun de nous doit savoir que ce qu'on dit ici, c'est karov. C'est accessible. C'est faisable. D'accord? C'est jouable. On peut le faire. Alors. Et là, on a expliqué un point très important. Changer sa nature, c'est difficile. C'est quasi impossible. Mais contrôler sa nature, ça, c'est possible. Plein d'exemples qu'on pourrait donner, là-bas, dans l'exemple suivant. Par exemple, quelqu'un qui se connaît, alors, il arrive à trouver ou pas les kilomètres? Ah.
1300.
Alors, je t'ai dit, j'étais pas loin. Alors. Prenez, par exemple, quelqu'un, par exemple, qui est colérique. Est-ce qu'il peut décider de ne plus être colérique? Non. Par contre, comme il se connaît, il sait qu'est-ce qui déclenche.
Donc il va travailler.
Et à quel moment il faut s'arrêter? Quel moment il faut s'arrêter?
Là, il sait que. C'est trouver le déclencheur.
C'est ça. C'est un combat de tous les jours, mais il faut savoir que le but d'arriver à aimer et créer un Akadosh Baruch Hu et que c'est faisable. C'était pour le chapitre 9 à 17. Donc la semaine prochaine, en fait, je pense qu'on prend un peu plus de temps. On le prend en trois cours, je pense que je vois que ça prend du temps pour développer. Donc le prochain cours, on fera 18 à 31. D'accord. Et le dernier cours, et le troisième cours, dans deux cours, on fera, si tu veux, la dernière série. Et avec ça, on fera le Siyum Pizza. Ouais, bien sûr. Ouais, comme vous voulez.
Ouais, la question que je me pose.
On peut pas le garder.
Si, gardez-les. Je vais faire avec moi. Je vais mettre avec Lisa.
Ouais, moi, la question que je me pose, c'est à quoi ça sert.
Sinon, vous pouvez me laisser. À la fin, quand on aura terminé, je vous le redonnerai.
À quoi ça a servi de créer le Yitzhara? Pourquoi pas créer tout de suite un humain, une entité humaine comme nous, sans arrêt, sans arrêt,